France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, Yves Parlier, ICO. À l'automne 2000, le mythique Vendée Globe prend le départ au Sable d'Olonne, comme d'habitude. C'est la quatrième édition de cette course autour du monde à la voile, en solitaire et sans escale, la totale. Cette année-là, Yves Parlier fait figure de favori dans cette course que les navigateurs appellent l'Everest des mers. Marin chevronné, déjà titré dans de nombreuses régates et courses au large, Parlier compte bien remporter le dernier des grands trophées qui lui manque. Oui, mais voilà, tous les marins le savent, c'est la base, la réalité de la mer peut être cruelle. Alors qu'il réalise une course exemplaire, Parlier subit un dématage. Fin de partie, c'est mal le connaître. Alors que beaucoup auraient abandonné, lui décide de terminer, et dans les règles. Un exploit qui participe grandement à la légende de cette course mythique qu'est le Vendée Globe. Notre invité aujourd'hui, Yves Parlier lui-même. Affaires Sensibles, une émission de France Inter. Récit documentaire Gaspard Vallure, rédaction en chef Franck Cognard. Chargé de programme Rebecca Donnante, réalisation Étienne Bertin.
Fabrice Drouel. Affaires Sensibles sur France Inter.
Vendredi 16 mars 2001, les Sables d'Olonne. Une foule immense est présente ce jour-là sur les bords du chenal menant au ponton de Port-Olonna. Ils sont des milliers à se presser les uns contre les autres pour saluer le retour à terre de l'un des héros de la quatrième édition du Vendée Globe, Yves Parlier. Pourtant, le navigateur à la barre de l'Imoca Aquitaine Innovation, qui boucle ce jour-là son troisième tour du monde en solitaire, n'est pas le vainqueur de la course. Loin de là même. Avec plus de 30 jours de retard sur Michel Desjoyeaux, le nouveau recordman de l'épreuve, il n'est même pas dans le top 10. Mais peu importe, car ce jour-là, c'est bien lui que le public est venu saluer. Un public marqué par la performance hors norme de ce marin qui, seul et à l'autre bout du monde, a livré une bataille acharnée pour rester en course. Un marin qui a traversé cette épreuve comme une aventure XXL.
15h47 hier, la délivrance pour Yves Parlier après 126 jours autour du globe. L'Arcachonnais embrasse son bateau, puis son mât dont la réparation sans escale à terre lui vaut d'être salué comme un aventurier du bout du monde. L'extraterrestre et son oiseau bleu toucheront le fond une dernière fois à l'entrée du chenal du Port des Sables avant de se livrer à la liesse médiatique et populaire. Puis c'est la rencontre avec le public avant la fête avec ses amis. Entre deux histoires de pêche, le skipper a précisé ceci. Les héros sont ceux qui ont fini devant. Moi, je ne suis qu'un revenant qui est allé au bout d'un défi.
Une aventure qui a marqué à tout jamais l'histoire de cette course mythique. La plus dure et la plus belle de celles qui font la voile moderne. Une épopée qui débute 127 jours plus tôt. Ils sont des milliers en ce samedi 4 novembre 2000 sur les pontons du village de départ du Vendée Globe. Les curieux se pressent pour admirer les impressionnants Imoca, ces bateaux de 18 mètres de long et au mât de 27 mètres de haut. Tous tentent aussi d'apercevoir une dernière fois les marins et leurs équipes s'affairer à quelques heures du départ de cette course autour du monde. Avec 24 concurrents engagés, un record, cette quatrième édition marque un tournant pour l'Everest des mers. À l'image de la Britannique de 24 ans, Ellen MacArthur, c'est aussi la jeunesse et l'inexpérience de la flotte qui retiennent attention. Car comme elle, la majorité de ceux qui s'apprêtent à partir à l'assaut des trois caps, Bonne Espérance, Lewin et Horn, s'engagent dans leur premier tour du monde en solitaire. Seul Yves Parlier, avec deux Vendée Globes à son actif, fait figure de vétéran d'épreuve. En cette veille de départ, pourtant les visages sont fermés. Convoqué par Philippe Jeantot, le créateur et directeur de la course, pour un ultime briefing, les 24 marins s'inquiètent des derniers bulletins météo. Les prévisionnistes sont formels, une violente tempête s'apprête à balayer le golfe de Gascogne et mettre les concurrents en danger dès les premiers jours de course. L'anglais Richard Tolkien est le premier à prendre la parole. Est-ce vraiment raisonnable d'envoyer les bateaux dans la tempête? La plupart des skippers acquiescent. Beaucoup redoutent une casse prématurée, quelques heures seulement après avoir pris la mer. Après d'intenses échanges, Jeantot propose de soumettre au vote la décision d'un report. Et le résultat est sans appel, Sur les 24 skippers, 20 se prononcent pour, 3 s'abstiennent. Seul Yves Parlier vote contre.
Tout a commencé ce matin vers 10h. Première réunion avec les 24 skippers, au-dessus des têtes, comme une épée de Damoclès, le temps. C'est lui le véritable maître. Après 2 heures d'âpres discussions, la nouvelle tombe, le départ est différé. 19 skippers ont voté pour le report, 3 se sont abstenus et 1 a voté contre.
Moi j'ai surtout en tête, et il y en a quelques-uns qui l'ont aussi, c'est que il y a déjà eu des précédents, des départs où on s'est dit que c'était peut-être pas opportun de donner le départ. Et moi je l'ai pris un départ comme ça en 93 à Mini Transat, et il y a un copain qui n'est jamais revenu. Et il y a des organisateurs qui ont été obligés de prendre une décision très difficile, c'est d'annuler la course une fois qu'elle était partie.
Si beaucoup saluent la sagesse collective des marins, ce report de 4 jours fait aussi des déçus. Il provoque même de vives réactions, notamment chez Tito Lamazou, premier vainqueur de l'épreuve, qui crée la polémique en critiquant un Vendée Globe devenu une course de gonzesses. Je le cite, bien sûr. Certains ironisent aussi et s'interrogent sur la capacité de ces skippers à affronter les 50e hurlants et les mers déchaînées du Grand Sud. Yves Parlier, le seul des 24 concurrents à avoir voté contre le report, se montre tout de même solidaire. S'il affirme qu'il était prêt à prendre le départ, le discret marin la joue collectif et accepte la décision. Mais il trépigne d'impatience. Surnommé l'extraterrestre depuis sa victoire flamboyante lors de la solitaire du Figaro en 1991, Yves Parlier est un skipper complet qui s'est imposé comme l'un des plus respectés de sa génération. Ingénieur en matériaux composites, c'est un touche-à-tout, aussi à l'aise sur un chantier naval que devant une table à cartes ou en haut de son mât. Passionné de voile depuis l'enfance, ce Parisien de naissance, arcachonné d'adoption, a grandi avec les récits d'aventure des pionniers. Et il s'est formé seul à la météo, à la navigation, dévorant insatiablement les manuels les plus ardus. Parlier qui a fait tomber de nombreux records est l'un des skippers les plus titrés du plateau. D'ailleurs c'est simple, il a tout gagné. De la Mini Transat, qu'il remporte haut la main en 85, après avoir traversé l'Atlantique sur un minuscule monocoque de 6,50 m, à la Transat Jacques Vabre, remportée en duo avec la légende Éric Tabarly, en passant par la Route du Rhum, la New York San Francisco ou la mythique Transat anglaise, rien ne lui échappe. Enfin presque. Car après 2 participations, Yves Parlier n'a pas fait mieux, et c'est déjà pas mal, qu'une 4e place au Vendée Globe. Alors pour cette édition 2000, il vise la victoire finale, rien de moins. Pourtant, et même s'il fait figure de favori de la course, ce marin de 40 ans traverse l'une des périodes les plus compliquées de sa carrière. En cause, un accident de parapente survenu 2 ans plus tôt.
Je vais vous donner des nouvelles du navigateur Yves Parlier. Le 18 juillet dernier, il était non pas sur son bateau, mais en vacances dans les Alpes. Il faisait du parapente avec une nouvelle voile. Et là, à quelques centaines de mètres d'altitude, la voile se replie et c'est la chute, c'est l'accident. Bilan, plusieurs fractures, tibia, péroné, le bassin, le nerf sciatique touché. Yves a fait une chute sérieuse, un accident très grave, il part à l'hôpital, il y est resté plusieurs semaines. Et depuis quelques jours, il a rejoint la côte landaise à Cap-Breton.
Effectivement, ça aurait pu être plus grave, j'ai eu la chance d'amortir le choc avec mes jambes. J'aurais pu par contre tomber sur les fesses et à ce moment-là... Finir à vie dans une chaise comme ça ou mourir. Ouais.
À aucun moment vous vous êtes dit le bateau pour moi c'est fini ?
Non, jamais je me suis dit ça. J'étais très confiant.
Là où d'autres auraient renoncé, Yves Parlier revient plus déterminé que jamais. Et il n'est pas là pour faire de la figuration. Bien décidé à remporter la course, il compte également faire tomber le record de 105 jours établi par Christophe Auguin 4 ans plus tôt. Objectif, être le premier à passer, pour la première fois sous la barre symbolique des 100 jours, pour boucler son tour du monde. Preuve de sa détermination et de son assurance, le skipper d'Aquitaine Innovation n'embarque que 100 jours de vivre, pas un de plus. Rendez-vous est pris le 11 février pour son retour au Sable d'Olonne.
C'est parti.
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, départ.
Et voilà, départ donné. Et a priori, bon départ. Et nous, on est devant Yves Parlier.
Bon départ pour les bateaux du Vendée Globe.
Et c'est visiblement en haut du plan d'eau, c'est-à-dire près de la bouée. Yves Parlier qui est parti le plus vite, suivi de Catherine Chabot. Vraiment un splendide départ avec un arc-en-ciel en toile de fond. C'est absolument splendide.
Le départ de la quatrième édition du Vendée Globe est donné le jeudi 9 novembre 2000. Par vent faible, Parlier et les autres concurrents peinent à prendre un départ rapide. Malgré tout, le skipper d'Aquitaine Innovation parvient à prendre le meilleur sur les autres Imoca et se place en première position au premier pointage. Solidement installé en tête d'un groupe de trois skippers, avec Michel Desjoyeaux sur PRB et Roland Jourdain sur Sil, Parlier et son grand oiseau bleu, comme il surnomme son voilier, déroulent une partition presque parfaite. S'il perd brièvement la première place au profit de Desjoyeaux au passage des îles Canaries, il reprend rapidement le meilleur sur celui qui s'annonce déjà comme son principal concurrent. Dans la descente de l'Atlantique, Parlier impose un rythme de sprint dans une course qui a pourtant tout du marathon, de l'endurance. Disons qu'il trace sa route. Sa lecture de la météo, ses choix de routage et ses manœuvres sont toujours les bons. Aquitaine Innovation semble voler sur l'eau. Le 5 décembre, alors qu'il se trouve aux abords du 40e parallèle, une zone redoutée par tous les marins pour ses vents puissants, ses eaux froides et sa mer tourmentée, Parlier pulvérise le record de distance parcourue en 24 heures. Avec 420 000 nautiques avalés en une journée, soit près de 778 km, il est le premier navigateur en solitaire à passer la barre symbolique des 400 000. Porté par des vents favorables, il franchit le cap de Bonne-Espérance à la pointe sud de l'Afrique. Et il est encore en tête au passage de ce point symbolique. Il met ensuite le cap à l'est. Il a devant lui deux océans à traverser, l'Indien et le Pacifique, excusez du peu.
Navigateur, solitaire. Traverse les univers, navigateur solitaire. Tu quittes ton père, tu quittes ta mère. Et si les vagues sont tes maîtresses? Ta femme, c'est l'infini. Ni satellite, ni GPS. Seule la belle étoile au ciel. Navigateur solitaire. Tu as grandi les univers, navigateur solitaire. Tu quittes ton père, tu quittes ta mère. Oh, dans les nuages, tu observes. Des corps de femmes alanguis. La lune s'allume qu'à pour toi. Unique adorateur de l'univers. Dedans. Passer le cap, hisser le foc,
le courant t'emporte droit devant. Navigateur solitaire, soleil dehors, soleil dedans. Laissez soucis à l'arrière, le courant t'emporte droit devant.
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, l'exploit d'Yves Parlier dans le Vendée Globe 2000.
Affaires Sensibles, Fabrice Drouel.
Cette semaine, les solitaires en course dans le Vendée Globe ont carrément changé de monde. L'entrée dans ces fameux 40e n'est jamais banale, surtout en solitaire. Derrière Parlier, Desjoyeau et Jourdain, qui caracolent en tête, une zone de calme a ralenti la progression de leurs poursuivants. Michel Desjoyeau fut le premier à nous décrire, image à l'appui, l'ambiance des 40e. Cette fois, pas de doute, nous y sommes.
Il y a du brouillard, il y a la houle du sud, il y a les albatros, des petits pour le moment. Et il commence à faire froid.
Le passage du Cap de Bonne-Espérance, le premier des trois grandes marques de ce Tour du Monde, symbolise le début d'une nouvelle course, celle d'une longue traversée d'ouest en est. Une route où les vents dépassent régulièrement les 100 km/h et les creux d'une mer démontée atteignent parfois les 20 mètres. Imaginez, c'est la hauteur d'un petit immeuble. Le Grand Sud est un juge de paix où les écarts se creusent et se réduisent au gré des dépressions et des tempêtes. Une épreuve qui met à mal aussi bien le moral et le physique des marins que la résistance des bateaux. Or, ce tournant décisif ne réussit pas à Yves Parlier. Alors que ses deux principaux poursuivants décident de prendre une route nord après le passage de la pointe de l'Afrique, lui s'engage dans une option plus au sud, espérant attraper une dépression favorable. Raté. Aquitaine Innovation se retrouve englué dans une zone sans vent. L'avance confortable engrangée dans la descente de l'Atlantique fond à vue d'œil. Ce n'est plus qu'une question de jours, puis d'heures, avant que Michel Desjoyeau et Roland Jourdain ne finissent par le dépasser.
Dans le Vendée Globe maintenant, la bataille tactique fait rage. À la surprise générale, Yves Parlier a choisi une route très au sud. A priori, ce n'est pas très payant, tout au moins pour le moment. Desjoyeau en a profité pour prendre la tête avec 35 000 d'avance sur Jourdain. Parlier est beaucoup plus loin, 173 000. Olivier Schwartz.
Aquitaine Innovation a retrouvé des vents d'ouest porteurs. Après avoir perdu près de 480 km en 48 heures, la nouvelle ne pouvait que réjouir Yves Parlier. Trahi par une dépression passée plus au nord que prévu, le skipper est tombé dans le piège de son option sud. Parlier est amer mais rassuré.
C'est dur à avaler, mais d'un autre côté, j'ai vu tellement le piège où j'allais y rester trois jours que là, pour moi, j'ai une dizaine d'heures de retard. Donc je t'avoue que je suis en fait très soulagé aujourd'hui.
Soulagé et même optimiste, de chasser il redevient chasseur, Desjoyeau et Jourdain sont prévenus.
Malgré son optimisme, Yves Parlier est bientôt relégué à près de 700 km des leaders. Aquitaine Innovation avance au ralenti. Le skipper est dépité, impuissant. En plus d'une lutte mentale pour ne rien lâcher, il doit aussi composer avec un corps toujours meurtri par son accident de parapente. Dans le Grand Sud, le froid est un danger permanent pour son pied droit devenu insensible. Un danger qui s'ajoute à celui des rollers, ces morceaux de glace errants détachés d'immenses icebergs, invisibles au radar et qui risquent à tout moment de percuter le navire et de mettre fin à la course. Mais la chance finit par tourner et Aquitaine Innovation parvient enfin à retrouver du rythme. Le 14 décembre, alors qu'il dépasse les îles Kerguelen, à mi-chemin entre l'Afrique et l'Australie, Yves Parlier sent que le vent tourne, au propre comme au figuré. Il faut maintenant qu'il rattrape son retard. Obsédé par cet objectif, le skipper profite de vents forts pour filer à des allures folles. Dans des conditions qui mettent à mal le bateau, il raille le mot prudence de son vocabulaire et ne réduit pas la voilure. Plus tard, il dira que naviguer à ces vitesses lui procure une jouissance que seuls ceux qui y ont goûté peuvent imaginer. Dans une houle de 15 à 20 mètres, répétons-le, il enchaîne les longs surfs et pousse son Imoca dans ses retranchements. La stratégie est risquée, mais force est de constater qu'elle est payante. Car le 17 décembre, il n'est plus qu'à 127 000, soit 235 km de Michel Desjoyeaux. Galvanisé par cette folle remontée, cette remontada, il ne s'accorde aucun répit. Mais dans la nuit, son pilote automatique principal connaît d'importants dysfonctionnements. Alors par prudence, Yves Parlier décide de basculer sur le pilote auxiliaire, moins précis. Le vent souffle fort, la mer est formée. Dans ces conditions, il sait que le second pilote automatique ne sera pas en mesure de mener efficacement le bateau. Il se lance alors dans une périlleuse réparation du pilote principal, de nuit et à la lampe frontale. La suite, il la raconte dans son livre, Yves Parlier, Robinson des mers.
Le bateau part à toute vitesse, ralenti dans une vague qu'il rattrape, et se plante dedans. Dans la décélération, blang ! Un bruit inoubliable, reconnaissable entre mille. Un bruit immonde, à la fois très sec et très musical lorsque le carbone explose. Je n'ai pas le temps de me redresser que le mât est par terre. J'ouvre grand les yeux pour en avoir la misérable confirmation. Je vois un bout de mât intact qui monte piteusement vers le ciel. La grande voile repliée sur une pièce branlante de ce même mât et le reste à l'eau.
Malgré le choc, Yves Parlier ne reste pas prostré. S'il veut éviter que son bateau soit davantage endommagé, il sait que les minutes sont comptées. Alors, armé d'un couteau, il libère les câbles et cordages en tension. Mais l'opération est risquée. Et il se souvient de son dématage 4 ans plus tôt et de son doigt déchiqueté par une corde. Alors il avance, mais avec prudence. Puis en pleine nuit, et au bout de l'effort, il remonte à bord les morceaux de son mât brisé en trois. Il sauve aussi ses voiles à l'eau et collecte tous les morceaux de carbone éparpillés sur le pont de son Imoca. Aux premières lueurs du jour, l'expérimenté marin est parvenu à sauver la quasi-totalité de son matériel. Mais il est abattu. Il repense aux 4 années de préparation qui ont précédé son 3e Vendée Globe, à son accident de parapente, à sa rééducation. Il sait que son rêve de victoire vient de s'envoler. Et pourtant, à cet instant, et alors que son bateau stagne sur l'eau sans mât ni voile, il a déjà pris une décision, il reste en course. À l'intérieur de son cockpit, il découvre un téléx de sa femme Isabelle. « Je vois ta vitesse qui n'avance plus, qu'est-ce qui se passe? Réponds-moi vite, je suis inquiète. » Parlier lui répond « J'ai dématé, mais tout va bien à bord, préviens l'équipe. » Puis c'est Philippe Gentot, le directeur de course, qui s'inquiète. Il demande à Hélène MacArthur et à un autre concurrent de se dérouter pour lui porter assistance. Mais Parlier rétorque qu'il va bien et qu'il n'a pas besoin d'aide. Puis ce sont les autres concurrents et enfin les médias qui découvrent les mésaventures du skipper d'Aquitaine Innovation. Mais alors que tout le monde pense que sa course est terminée, Yves Parlier confirme son choix de la poursuivre.
Le numéro d'Yves Parlier, on le connaît par cœur. Premier au départ des Sables d'Olonne, premier à franchir le Cap de Bonne-Espérance, Parlier, imprimant à cette course autour du monde en solitaire un rythme d'enfer. Mais voilà, depuis 48 heures, Parlier a dématé. Autant dire que pour lui, la course est finie. Mais hier, coup de théâtre, Parlier nous fait encore un numéro dont lui seul a le secret.
Il s'est dit, de toute façon, maintenant, je ne peux plus gagner, alors que c'était vraiment un candidat sérieux pour la victoire. Je vais déplacer mon challenge et maintenant, je vais essayer de ramener mon bateau.
Numéro 1 de l'obstination, lanterne rouge du renoncement, Parlier a décidé d'aller jusqu'au bout de la course. Principal danger de ce choix audacieux, le ravitaillement. Parlier n'est parti qu'avec 100 jours de vivre et il lui faudra certainement bien plus pour atteindre les Sables d'Olonne. Mais après tout, plus rien ne peut vraiment surprendre de ce marin que tous surnomment l'extraterrestre.
Après un long repos, Yves Parlier se met au travail. Il lui reste 6 mètres de mât encore en place. Il décide alors d'y monter le voile pour continuer d'avancer sous gréement de fortune. Une opération délicate, réalisée dans un froid glacial et sur une mer agitée. Mais c'est un succès. Aquitaine Innovation navigue de nouveau. Tout est très bien, mais soyons réalistes. Impossible d'imaginer rejoindre les Sables d'Olonne dans ces conditions. Alors, avec l'aide de son équipateur, Parlier imagine un plan incroyable pour reconstruire son mât et le remettre en place sur son bateau. Un travail titanesque qu'il va devoir réaliser seul, car c'est la règle. S'il veut rester en course, il n'a le droit de recevoir aucune aide. Et très vite, une priorité s'impose. Trouver un endroit propice pour réaliser ce grand chantier. Même s'il en est encore loin, l'Australie est la première terre qui se présente à lui. Mais cela impose de se dérouter trop au nord. Bon, la Tasmanie, pas idéale non plus. Finalement, un un navigateur néo-zélandais lui suggère une baie reculée de l'île Stuart, tout au sud du pays, un endroit à l'abri de la houle et du vent. Un lieu suffisamment isolé, également pour éviter que des curieux ne se pressent autour de l'Imoca en chantier. Ce qui est une préoccupation constante pour Parlier, qui sait très bien que si quelqu'un touche son bateau, la disqualification est immédiate. Le 19 décembre, avec un bateau sérieusement endommagé, il met donc le cap sur l'île Stuart. Il est encore au beau milieu de l'océan Indien, et la route est longue. Il a près de 2 semaines devant lui, durant lesquelles il ne chôme pas. Sur le pont et à l'intérieur de son cockpit, l'ingénieur en matériaux composites qu'il est se met au travail pour réparer et pour préparer la reconstruction de son mât. Un travail long, très compliqué, qu'il documente quotidiennement à l'aide de son petit caméscope.
Il y a un peu le chantier, il y en a partout. Il y a le seau là, tout ça c'est le nettoyage, tout ça c'est les chutes de carbone.
Ah, elle vaut cher hein, cette pièce. Il y a des heures de travail. Si je compte, 13 heures de travail hier. Ce matin, environ 5 heures, ça fait déjà 18 heures de travail sur cette pièce.
Voilà mes 3 coquilles de bord d'attaque et les 2 flancs. Le mât va venir au milieu.
Là, je suis en train de fabriquer la rampe de lampe pour chauffer.
Seul, évidemment, il prépare minutieusement l'opération. Il parvient même à confectionner un four artisanal à l'aide d'ampoules présentes sur le bateau. Le 7 janvier 2001, près de 20 jours après son dématage, Yves Parlier jette l'ancre à Port Pegasus, une petite baie isolée de l'île Stuart. Il y retrouve un bateau envoyé sur place par son équipe. Son capitaine, un pêcheur néo-zélandais, est présent en cas de coup dur. Mais il est prévenu. Il a interdiction formelle d'approcher et ne doit intervenir qu'en dernier recours. À bord se trouvent aussi 2 journalistes français venus documenter l'aventure du skipper. À peine arrivé, Parlier se jette à l'eau sur un petit radeau confectionné à l'aide de bidons en plastique. Il connaît le règlement et il sait qu'il ne peut pas poser le pied à terre au-delà des limites de la marée haute. Alors après avoir consolidé son ancrage, il profite d'une mer basse pour pêcher des moules dans la baie. Après une première nuit sur place, il s'apprête enfin à faire tomber son gréement de fortune et lancer les grandes réparations. Il espère pouvoir boucler son opération 4 ou 5 jours maximum. Mais il est surpris par un vent fort qui s'engouffre dans la baie. Son bateau est secoué, son ancre dérive jusqu'à ce que la quille heurte le fond. Aquitaine Innovation s'échoue. Et une nouvelle fois, la course risque de prendre fin. Mais encore une fois, il refuse de renoncer. Sur son radeau de fortune, il multiplie les allers-retours pour installer un nouvel ancrage. Équipé de sa combinaison de survie, il plonge aussi à plusieurs reprises dans l'eau glaciale. Et quand la marée remonte, il lutte de toutes ses forces pour redresser son navire. Un truc de bagnard. Et contre toute attente, il y parvient. Exténué, Parlier s'accorde un long repos avant de débuter le vrai chantier, la réparation de son mât. Durant plusieurs jours, 20 heures sur 24, il prépare l'opération. Il déplace avec difficulté les imposants tronçons de carbone, qui, une fois assemblés, mesurent près de 18 mètres, soit la longueur de son bateau. Puis il installe son four confectionné avec les moyens du bord, positionne au millimètre près les 2 morceaux du mât, puis vient le moment d'appliquer la colle. Et c'est ici que tout se joue. Car si son four ne chauffe pas assez, la colle ne prend pas. Si le positionnement n'est pas bon, le mât ne tiendra pas. Cette opération, ô combien délicate, il la raconte aux médias français qui suivent son aventure.
Yves Parlier joue les Robinson dans la baie de l'île Stewart au sud de la Nouvelle-Zélande. C'est là qu'il répare seul son mât cassé en deux. Parlier, le MacGyver de la voile, le roi de la débrouillardise, avec toujours une idée de génie pour se sortir du mauvais pas.
Le mât est parfaitement aligné suite à ce premier collage. J'ai fait une cuisson qui a duré environ 4 heures. Le mât est parfaitement droit. Donc maintenant, la dernière difficulté qui me reste, c'est d'arriver à redresser le mât à la verticale.
Et à terre, une telle opération nécessite une grue de 4 à 5 personnes. Mais il est seul, toujours. L'ingénieur qu'il est met alors en place un système de poulies. Le bateau tout entier est maintenant encombré de cordes et câbles en tension. et la situation est périlleuse. Alors, Parlier se déplace avec précaution. Heure après heure, centimètre après centimètre, il parvient enfin à redresser son nouveau mât. Le pari était fou, il est réussi. Mais si la joie est réelle, le skipper n'oublie pas la course et ne s'éternise pas dans la baie de Porto Gasus. Le 17 janvier, après 10 jours sur place, il met les voiles et reprend sa route vers les Sables d'Olonne. Mais il n'est pas encore sorti d'affaire. Son principal enjeu maintenant, la gestion de ses réserves de nourriture. Lui qui était parti avec seulement 100 jours de provisions, sait qu'il va devoir se rationner. Alors encore une fois, c'est le système D qui prime. Son idée, se nourrir d'algues qu'il remonte à bord de son bateau.
Voilà mon garde-manger, les algues. Ça, c'est des protéines. Je trie toutes mes algues comme ça. Je jette cette partie-là qui retourne à la mer parce que je me suis aperçu qu'elle était beaucoup moins bonne. Donc, hop, les poubelles, les voilà, c'est par là.
Alors j'ai le droit à la moitié de ça.
Cette solution fonctionne un temps et permet à Yves Parlier d'économiser au maximum sur ses rations et de poursuivre sa course. Autorisé à utiliser du matériel du radeau de survie, il tente aussi de pêcher. En vain. Conseillé par son équipe et des pêcheurs expérimentés, il lui faut plusieurs semaines avant de réussir à attraper une dorade. Mais il sait qu'il faut s'armer de patience. Début février, il passe enfin le Cap Horn, la dernière des trois grandes marques de l'Everest des mers, et signe le début de la remontée de l'Atlantique. Mais la route est encore longue, et le skipper a de plus en plus de mal à se satisfaire de ses repas à base d'algues. Un régime qui, en plus de l'écœurer, reste bien trop frugal. Avec au mieux 800 calories avalées par jour, il est très loin des 5 à 6 000 nécessaires pour couvrir les besoins d'une traversée en solitaire. La nourriture devient alors une obsession qui ne le quitte plus, un sujet de discussion permanent avec son équipateur. Et logiquement, Parlier finit par craquer. Mi-février, alors qu'il se trouve au large du Brésil, il se jette sur ses provisions qu'il dévore sans réussir à s'arrêter. Alors que les premiers concurrents ont déjà franchi la ligne d'arrivée, que Michel Desjoyeaux a pulvérisé le record de la course, le skipper d'Aquitaine Innovation songe un temps à l'abandon et à rejoindre les côtes brésiliennes. Mais encore une fois, il se montre résilient. Et très vite, les poissons volants qui s'échouent par dizaines sur le pont de son bateau viennent compléter son régime. La pêche aussi s'améliore. Le 16 mars 2001, après 126 jours et 23 heures en mer, Yves Parlier franchit enfin la ligne d'arrivée de la 4e édition du Vendée Globe.
Yves Parlier coupe la ligne d'arrivée à l'heure du goûter. Et c'est vrai, on ne parle pas la bouche pleine. Surtout quand on vient de manger pendant 60 jours des algues et du poisson séché. Mais Yves est pressé de rentrer, peut-être un peu trop. Il a oublié de regarder l'heure de la marée, sa quille touche le fond. Tant mieux pour le public qui a eu tout le temps de l'acclamer à l'entrée du chenal. Sur son bateau, en trophée des algues et un poisson volant séché. Son menu quotidien pendant près de 60 jours. Yves Parlier, celui que tout le monde appelle l'extraterrestre, un surnom qu'il a bien mérité. De prouesse en exploit, le voilà au Sable d'Olonne. Il voulait rentrer en vainqueur du Vendée Globe. Il a été accueilli en héros.
Arrivé en 13e position, le skipper d'Aquitaine Innovation n'est pas le dernier de la course. Non, deux autres marins franchissent la ligne d'arrivée dans son sillage. Sur les 24 concurrents engagés dans cette 4e édition de l'Everest des mers, ils ne sont que 15 à parvenir à boucler leur tour du monde. En tout cas, voilà une course qui restera gravée dans les mémoires de nombreux marins. D'abord pour la performance de très haut niveau d'Hélène MacArthur, qui à 24 ans parvient à franchir la ligne d'arrivée en seconde position, à quelques heures seulement du premier, devenant ainsi la femme la mieux classée de l'histoire de l'épreuve. Mais aussi pour l'aventure folle d'un Yves Parlier bien décidé à ne pas abandonner là où peu de marins auraient rejeté l'éponge. Deux performances qui éclipsent presque le nouveau record de la course établi par Michel Desjoyeaux, un brin amer. Cette troisième tentative sera la dernière pour Yves Parlier. Mais si le marin a abandonné son rêve d'inscrire son nom au palmarès du Vendée Globe, il a réussi l'exploit de s'imposer comme l'un des héros de cette course mythique.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Vendée Globe 2000, aujourd'hui l'exploit d'Yves Parlier, notre invité, Yves Parlier lui-même. Bonjour.
Bonjour.
Alors, c'est que c'est pas de tradition d'inviter le protagoniste des histoires qu'on raconte, mais là on s'est dit pour le coup, qui mieux que lui peut témoigner, hein. Alors on va reparler de ce Vendée Globe et aussi de Beyond the Sea, de vos activités actuelles, d'accord ? Pour commencer, un regard en arrière donc sur votre carrière, de toutes les courses et régates auxquelles vous avez participé, j'imagine que celle du Vendée Globe 2000 est celle qui vous a le plus marqué, non ?
Absolument, oui, c'est sûr que ça a été une aventure extraordinaire qui en fait est un peu la prolongation de ce qui a fait ma passion des bateaux et de la voile, puisque adolescent habitant la région parisienne, en fait, j'ai dévoré les livres de Janichon, Moitessier, qui ont parcouru ces latitudes sud, qui eux-mêmes ont eu tout un tas de difficultés et qui ont toujours réussi à finalement ramener leur bateau au port.
Il y a un film qui s'appelle Seul, qui raconte votre histoire. C'est Samuel Le Bihan qui joue votre rôle. Mais évidemment, vous connaissez ce film. Vous avez peut-être dû participer pour donner des conseils, donner des précisions, non, j'imagine ?
Non, je n'ai pas participé. Ouais. Mais par contre, je l'ai visionné près d'une dizaine de fois et avec beaucoup de plaisir, beaucoup d'émotion.
Alors, on vous présente comme, alors c'est gentiment dit, mais une tête de mule, quoi. Vous êtes vraiment, quand vous avez une idée en tête, personne ne peut vous détourner de ça.
Alors, parfois, Samuel me joue, je trouve, un petit peu avec un mauvais caractère.
Oui.
Bon, j'ai du caractère, mais pas autant. Et ce que je crois, c'est que j'ai une motivation qui me vient justement de cette période où j'ai forgé quelque part ma personnalité entre l'âge de 12 ans et 18 ans, où je me suis quelque part battu pour devenir marin et faire le tour du monde. Et ça, c'est quelque chose de très puissant chez moi, et c'est une grande ressource, une source de motivation qui m'a toujours aidé dans mes courses.
Alors, quand on voit tous les efforts qu'il faut fournir, les efforts sportifs, alors les efforts pour de sauvetage, pour réparer votre bateau, enfin, quelle est la préparation physique d'un marin de haut niveau? Parce que c'est quand même très, très physique. Si vous n'aviez pas été en forme, vous auriez abandonné tout ce que vous avez dû faire, plonger dans l'eau glaciale pour réparer le bateau, enfin, des choses pas faciles, quoi.
Non, la préparation physique, c'est pas forcément un élément clé. Évidemment, faut être en bonne forme physique, mais c'est pas le physique qui fait la différence. C'est principalement le mental. Quand on est face à des difficultés, comme j'ai pu l'être dans cette course ou à d'autres occasions, c'est toujours donc un travail sur soi, de ne pas paniquer déjà au début, puisque c'est souvent un stress énorme, hein, de se retrouver avec une avarie majeure au milieu de l'océan, en général au milieu de tempêtes. Passer le moment du choc psychologique, il faut se ressaisir. Et en fait, souvent, finalement sur un bateau, tant que la coque ne coule pas, il y a pas vraiment d'urgence. Et avec le recul, avec effectivement les récits de naufragés que j'ai pu lire et les conclusions qu'à chaque fois on en tire et qu'en tiraient les gens qui avaient vécu, souvent des gens se perdent en mer et on retrouve leur bateau vide parce qu'ils ont paniqué.
Ouais. Et la solitude, comment vous la gérez? Ça vous arrive de parler seul?
Bien sûr que ça m'arrive de parler seul. Bien sûr que finalement, on se crée déjà un lien avec très fort avec son bateau, avec les éléments. On n'est pas tout seul quelque part. Il y a des animaux qui nous entourent, avec lesquels on communique, que ce soit les albatros. Je me souviens d'échanger des regards d'albatros qui sont à 3 mètres de moi, sous le vent du Génois, qui profitent de l'aspiration du Génois. Et la même chose de dauphins qui accompagnent le bateau ou de rorquals quelquefois. Donc, et à partir du moment, j'en reviens à ce qui a forgé ma vocation. C'est quelque chose sur lequel la vie en mer tout seul me suffit amplement. En tous les cas, dans les laps de temps, c'est-à-dire près de 3-4 mois que j'ai pu vivre en mer.
Certains emportent des podcasts d'émissions de radio, dont la nôtre d'ailleurs, je le dis un peu, je le dis sans modestie, mais c'est vrai.
Non, mais c'est tout à fait vrai, et c'est vrai que sur un bateau en solitaire, avoir la présence humaine avec une voix crée toute une ambiance dans laquelle on est beaucoup plus sensible qu'à terre, où on va être perturbé par tout un tas d'autres événements. Tandis que là, on peut vivre à 200% des histoires racontées, lues, ou des émissions comme la vôtre.
Allez, tout le monde sur un bateau, ça sera bien hein, pour nous. Le Vendée Globe, alors c'est une course particulière, vous, en tant que marin. Quelle notion vous en aviez avant de faire la première, d'ailleurs? C'est quoi le Vendée Globe pour un marin moderne? C'est le top du top?
Alors, c'est quelque part l'aboutissement en général d'une somme d'expérience. On commence pas la voile par le Vendée Globe, mais par contre, on peut se lancer dans la voile quelque part pour le tour du monde à la voile. Le tour du monde, pour un marin, c'est quelque chose comme un Graal. Ça s'est fait d'abord par escale, d'abord par découverte, d'abord en équipage. On se rappelle de Vasco de Gama, qui a été le premier, quelque part, à faire le tour du monde.
Le Cap de Bonne-Espérance,
avant,
surtout.
Avant la voile, on ne savait pas faire le tour du monde. Et puis, il y a eu, dans les années... au XXe siècle, des marins qui ont fait de plus en plus de tentatives et puis de réussites, des records, et puis est né des courses autour du monde en solitaire avec escale.
Oui.
Puis les marins français, dont Gentot, ont créé le Vendée Globe, le tour du monde sans escale.
Avec, et en solitaire.
En solitaire, avec cette particularité de ne pas avoir le droit à l'assistance.
Donc on ne peut pas faire plus dur.
France Inter. Affaires sensibles.
Yves Parlier, vous êtes connu pour votre abnégation. Et il leur fallait hein, pour survivre, entre guillemets, pour finir une course comme celle du Vendée Globe dans vos conditions. Je me souviens dans le film, alors je ne sais pas si ça existait, mais à un moment, Samuel Le Bihan, qui joue votre rôle, quand il répare le bateau, fait tomber une pièce au fond de l'eau. Et là c'est vraiment... C'est terrible, quoi. C'est vraiment dur. Il faut aller plonger, chercher cette pièce. Il y a un petit moment de désespoir, là. Quel a été le moment le plus dur de cette épopée?
En fait, le moment le plus dur, vous en parliez, ça a été dans la remontée de l'Atlantique. À un moment donné, j'ai craqué, j'ai eu un peu une overdose des algues. J'avais pas encore pêché la fameuse dorade. Et effectivement, je suivais un régime et des horaires de repas, puis d'un seul coup, j'ai craqué. Et j'ai mangé 15 jours de chocolat, 15 jours de fromage, et j'en pouvais plus. Et ça a été très dur.
Et il y a eu la dorade. Vous avez été sauvé par une dorade.
C'est J'ai bien été pour sauvé par une dorade, exactement. Par la dorade.
La dorade. Comment vous l'appelez d'ailleurs dans votre livre, la dorade sacrée, je sais pas quoi, un truc comme ça. La dorade mythique.
C'est le titre
d'un chapitre de votre livre. Bon, en tant que navigateur et ingénieur et concepteur de navires, quel regard portez-vous sur la voile d'aujourd'hui? Est-ce que vous êtes admiratif des Imoca, Maxi, Trimaran qu'on voit maintenant, ou plutôt nostalgique des navires de votre époque?
Non, je suis très admiratif des Imoca aujourd'hui, des performances qu'ont les bateaux aujourd'hui et des skippers qui les mènent. C'est assez incroyable, je suivais la dernière course des Imoca. Quand ils étaient en Méditerranée, il y avait des bateaux qui étaient pointés à 33 nœuds pendant qu'il y en avait qui allaient à 1 nœud. Donc quelquefois, boum, une risée et les bateaux démarrent à des vitesses de dingue. C'est des bateaux qui aujourd'hui en partie vol au-dessus de l'eau sur des foils, et il y a eu des progrès immenses depuis mon époque.
Est-ce que ça rend plus facile la navigation?
Ça rend pas plus facile la navigation, et de toute façon, être le premier, c'est toujours aussi difficile, voire même plus. Alors, ils sont plus à l'abri parce qu'ils ont des cockpits complètement couverts, mais les bateaux, comme ils vont plus vite, sont beaucoup moins confortables, et il y a beaucoup plus de chocs.
Alors, vous êtes évidemment toujours intimement lié au monde de la voile, ben ça se voit, hein, vous en parlez toujours avec passion et de la course au large. Vous avez créé Beyond the Sea. Alors, c'est quoi Beyond the Sea? Racontez-moi.
Beyond the Sea est une entreprise qui développe des systèmes de traction de navires par kite, des navires de toute taille, puisque les plus petits bateaux qu'on équipe, ils font 4 mètres, et on espère aller jusqu'à des cargos de 400 mètres. Alors aujourd'hui, on a des kites pour la sécurité, qui font un peu l'unanimité dans le milieu.
Ah, c'est qu'on quoi, les embarque kites, parce
en cas de panne.
Pour ceux qui ne connaissent pas, les ailes de kite, c'est quoi?
Alors, les ailes de kite, c'est un cerf-volant, un peu comme le kitesurf qui tracte un homme. Mais là, c'est un kitesurf beaucoup plus grand en général qui va tracter un bateau. Et avec tous les systèmes de pilotage automatique, système d'envoi et de récupération, puisqu'évidemment, on parle de surface énorme quand il s'agit de cargo. Aujourd'hui, notre plus grande surface de kite, c'est 200 mètres carrés, et on pense aller jusqu'à 1600 mètres carrés. Et tout ça, ça permet quelque part de décarboner les marines et moins émettre de CO2.
Ah oui, là, on parle du transport de commerce.
On parle de transport de commerce, exactement. Mais ça fonctionne sur tous les bateaux de pêche, les bateaux de plaisance.
Et ça fonctionne sur les bateaux de compétition, là?
Alors, sur les bateaux de compétition, sur les voiliers tels que les Imoca ou les grands trimarans, les skippers emmènent ces kites en sécurité en cas de dématage. Ils n'ont pas le droit de s'en servir en course, le nombre de voiles est limité, mais par exemple sur les trimarans, tous ont un Liberty Kite de 40 mètres carrés en cas de dématage.
Bien, le nombre de voiles est limité, notre temps également est limité, hélas, il faut parler. Mais enfin, ça nous a fait plaisir de discuter avec vous. Merci d'être venu.
Merci beaucoup.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui. Yves Parlier, le Vendée Globe 2000. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Loïc Frapsos.